Les séminaires du Collège de France.
Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue au Collège de France pour ce deuxième séminaire intitulé « Sacrifice en comparaison 2 », puisque c'est la deuxième année que je mets cette formule en place, avec donc l'invitation de deux collègues qui travaillent sur des aires culturelles distinctes, et voilà, avec cette idée que la mise en regard peut être productrice d'idées, de questions, de nouvelles voies. Voilà, c'est dans cette perspective du comparatisme, je l'espère bien pensé, que s'inscrit ce séminaire. Vous connaissez maintenant la formule, donc aujourd'hui j'ai le plaisir de réunir Danuta Liberski-Bagnou et Péric Pitrou, l'une travaillant sur l'Afrique, l'autre sur la Mésoamérique. Et nous allons donc commencer, comme vous le voyez à l'écran, par l'intervention de Danuta Liberski, que je vais vous présenter brièvement, même si beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Donc Danuta Liberski est directrice de recherche au CNRS. J'ai plaisir à rappeler qu'elle a été formée en anthropologie à l'Université libre de Bruxelles. Ce n'est pas Liège, mais c'est quand même la région francophone de Belgique. Et donc, voilà, on a pour des raisons diverses et à des moments divers, nous avons fait le même trajet, dans la mesure où, après sa formation à l'ULB, Danuta est venue à l'EPHE pour poursuivre ses investigations sous la houlette de Michel Cartry, avec lequel elle a beaucoup collaboré. Ils ont cheminé de conserve, notamment dans une série de projets comparatistes. Et c'est en effet une direction extrêmement importante et que je tiens à souligner du travail de Danuta. Au-delà de son travail de terrain, qui porte, comme le titre l'indique, sur la région Kasséna entre Burkina Faso et Ghana, avec donc tout un questionnement sur le rapport à la terre, sur la territorialisation, sur la question des rites, dont le sacrifice fait évidemment partie, avec aussi cet intérêt pour la construction rituelle des destinataires de l'opération, toute chose évidemment qui intéresse beaucoup ceux qui, comme moi, travaillent sur ces questions. Aussi toute une dimension sur la divination. Donc la question de la divination dans le rapport à l'écriture ou aux formes graphiques en général. Et puis, je le disais, ce goût et cet intérêt pour la comparaison avec une démarche réflexive sur les outils mêmes du processus comparatif. Et Danuta a été de toutes les grandes aventures comparatistes depuis les années 80. Alors, elle a évidemment un dossier de publication fourni, dont je ne vais pas livrer le détail. Je voudrais simplement pointer deux ouvrages récents. En 2023, la publication d'une monographie intitulée « La souveraineté de la terre, une leçon africaine sur l'habité », qui a été publiée au Seuil. Et un peu avant, en 2019, un collectif qui avait été dirigé, outre par Danuta, par Odile Journet et René Coche-Pietre, et qui s'intitule très joliment « Mémoire au pluriel de la Terre » et qui a été publié chez Jérôme Millon à Grenoble. Danuta va donc nous emmener sur ce terrain de prédilection et je lui laisse immédiatement la parole.
Alors, tout d'abord, je remercie très vivement Viviane Pirenne de son invitation et qu'elle me donne ainsi l'occasion de replonger dans mes matériaux de terrain. Et j'ai redécouvert au passage des pages qui avaient été laissées inexploitées et j'ai pu ainsi reprendre sur nouveau frais la question de la pratique sacrificielle telle que l'envisagent donc les Kasséna du Burkina Faso. Alors l'objet de mon propos, comme indiqué dans le titre, est d'examiner ce qui se trame dans les sanctuaires boisés qui façonnent le paysage de tout territoire villageois. En pays Kasséna, comme en ont d'ailleurs beaucoup d'autres populations de la région. Il s'agit d'interroger la double fonction des pratiques sacrificielles, en ce cas d'espèce, à savoir d'une part transformer l'espace de brousse en territoire humanisé, et de l'autre créer et recréer les liens sociaux entre les groupes lignagés appelés à cohabiter sur une même portion de terre. La première de ces fonctions se soutient d'un fragment de mythe cosmogonique. La seconde trouve son fondement dans des récits étiologiques de villages et se matérialise dans la pratique sacrificielle régulière qui scande la vie d'une communauté villageoise. Pourquoi et en quoi la grande fiction sacrificielle rituelle est ce qui, je citation, est ce qui suit le chemin de la vie, pour reprendre l'expression d'un devin Kassena, c'est ce que je vais m'attacher ici à saisir. Alors, pour l'économie de mon propos, je commencerai par indiquer plus ou moins rapidement le cadre pratico-théorique dans lequel il s'insère. Spécifiquement forgé au cours des recherches comparatives collectives sur le sacrifice dans le champ des études africanistes, ce cadre pourrait néanmoins servir, enfin du moins je l'espère, en certaines de ses propositions, à nourrir la réflexion comparative sur l'institution sacrificielle en d'autres civilisations. Je propose donc un cheminement en trois parties qui seront inégales, les cartes, hein, donc une première partie pour présenter brièvement le terrain, le sacrifice, en deuxième partie le sacrifice comme catégorie, c'est-à-dire la recherche de paradigmes, et en trois le sacrifice comme institution et comme fiction mythico-rituelle. Donc les cartes. On va passer vite. Les Kassena habitent donc cette région située entre le sud du Burkina Faso et le Ghana. Quand je m'y suis rendu pour la première fois en 1981, ils constituaient une population de 200 000 âmes environ. Aujourd'hui, aucune idée. Par la langue, ils relèvent de la grande famille des langues dites voltaïques, ici représentées en jaune sur la carte. Et à l'intérieur de cette grande famille, ils constituent un sous-groupe dit des langues Gurunsi. La majorité des Kassena sont des cultivateurs, c'est-à-dire que quels que soient les arts qu'ils peuvent exercer par ailleurs, forgerons, devins, etc., ou charges rituelles qui leur incombent, ils tirent l'essentiel tous de leur subsistance de la culture du sol. Par ailleurs, ils pratiquent un peu d'élevage et entretiennent une basse-cour de poules et de pintades, semi-sauvages donc, mais l'élevage, et c'est à retenir, n'a pas pour but la production de viande de boucherie. Il s'agit pour l'essentiel de réserves d'animaux sacrificiels. La boucherie est une pratique inconnue en réalité des Kassena jusqu'au temps de la colonisation et encore aujourd'hui, elle reste rarissime dans les villages. Il n'y a pas à proprement parler de village, au sens où on l'entend ici habituellement. L'habitat est dispersé, chaque point rond rouge représente une vaste maison, une maisonnée, et chacune de ces maisons est entourée de son champ permanent qui constitue le domaine domestique de la maison et inclut des collines, des cours d'eau, etc. Ça ne signifie pas qu'il n'existe pas d'unité. Cette unité se fait sur la terre, donc cette unité se fait sur la terre qui est symbolisée par un sanctuaire spécifique qualifié de lieu où la terre respire. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas de dia parce que c'est un lieu où l'étranger n'est pas bienvenu. Le desservant du culte est un personnage dont le titre signifie littéralement le gardien de la terre. Le groupe local est le patrilinéage, c'est-à-dire un groupe d'hommes et de femmes apparentés par l'affiliation patrilinéaire qui remonte à un ancêtre masculin considéré comme le fondateur du groupe. L'organisation interne d'un patrilinéage suit une logique sémantaire. Les ancêtres tant masculins que féminins constituent les points de segmentation au sein du groupe et les différents patrisegments, donc les différents segments au sein d'un grand lignage, forment des unités rituelles distinctes, autonomes et hiérarchisées. Une communauté villageoise est toujours composée de plusieurs groupes patrilinéaires d'origines diverses qui forment ce qu'on appelle en jargon technique un plan composite. Donc on va continuer. Ce terrain, cette région, il y a un double système d'autorité. Il y a le rôle du gardien de la terre que je viens d'évoquer, qui est au centre de ce qu'il y a à saisir dans mon propos. Et ce personnage existe dans toute l'ère voltaïque, à quelques exceptions près. Mais en région Kassena, comme ailleurs d'ailleurs, il coexiste souvent, mais pas nécessairement, avec cette autre figure du pouvoir qu'est le chef. Alors, le premier, c'est tout une opposition complémentaire structure la relation entre ces deux figures de souveraineté. Le premier est d'origine céleste ou chthonienne, donc le gardien de la terre, et le second est par structure toujours un étranger au territoire où il va exercer son pouvoir. Ils ont des habitus opposés, le type flamboyant et bruyant pour le chef, effacé et silencieux pour le gardien de la terre. Le type de pouvoir n'est même pas le même, le gardien de la terre étant son autorité sur la grande étendue de la terre, en principe sans limite, bien qu'il y en ait évidemment, alors que le pouvoir du chef, lui, est limité aux maisonnées du village. On ne peut pas pour autant se contenter de les différencier selon l'opposition religieux-politique, parce que les deux tirent leur autorité de la terre, mais sur un mode inversé, et les deux exercent un pouvoir tant rituel que politique. Alors, l'espace villageois se subdivise selon un double principe. Le premier principe... Ça a l'air de fonctionner. Voilà. Le premier principe est celui des sections claniques. C'est les Cassénas appellent ça des Naouri, qui est traduit par quartier en français. Ce sont ces plages-là colorées, donc il y a différents... Il y a 6 quartiers dans ce village en question, pris pour exemple, et dans une même section clanique cohabitent les noyaux de 2, parfois 3 groupes lignagés d'origine distincte qui ont noué entre eux une relation d'assistance rituelle mutuelle. Ils se définissent mutuellement comme des parents de la cour extérieure par rapport à la relation qui existe entre les membres d'un même groupe lignagé où ils sont parents de la chambre. Dans la mesure où cette assistance rituelle mutuelle consiste à prendre en charge la conduite de certains rituels potentiellement dangereux concernant un groupe, et que cette prise en charge est prise par l'autre groupe, on peut définir, et je définirai cette relation comme une alliance cathartique. La seconde subdivision qui va ici nous retenir, tout particulièrement, est celle qui résulte du partage par le gardien de la terre de sa terre. Tout village, toute communauté villageoise dépend d'un seul gardien de la terre, et parce qu'il est installé sur la terre de ce gardien de la terre. Un partage qui est plus exactement une délégation de responsabilité rituelle, puisque sa terre ne se trouve pas diminuée par ce partage. Alors, pour me faire entendre, j'ai jusqu'ici parlé de sanctuaires boisés, mais en fait la réalité est plus complexe. En Kassem, le terme qui désigne ces sanctuaires est tangwam. Ce terme est un terme d'emprunt en Kassem, probablement à leur proche voisin Bilsa, où il se dit tengwané, et qui, dans cette langue-là, signifie littéralement « peau de la terre ». Peau, comme la peau, hein, pas comme un pot. Donc, on retrouve dans toute l'ère voltaïque, on retrouve des réalités semblables et qui sont désignées par des termes très proches qui ont la même signification. Ce mot en Kassem et dans les autres langues désigne tout à la fois le lieu sanctuarisé, donc le sanctuaire, la puissance destinataire du culte et parfois la large portion de terre qui est associée au tangwam, au sanctuaire. Cette portion de terre correspond à l'une des aires rituelles du sanctuaire. Il y en a plusieurs, vous le verrez, en ce sens que les sacrifices qui sont accomplis dans l'enceinte du sanctuaire font sentir leurs effets jusqu'aux limites de cette portion de terre. Alors, il y a différents types de peaux de la terre, bois, rivières, collines. Toutes les entités, et ça c'est peut-être propre au système de pensée Kassena, toutes les entités naturelles qui composent un paysage sont identifiées comme des peaux de la terre. Les collines, les rivières, les mares, les rochers, tout ce que vous voyez à l'écran. Les grottes, les sources. C'est différentes manières qu'ont les peaux de la terre de manifester dans le paysage leur présence. Pour autant, tous ces lieux ne bénéficient pas d'un service sacrificiel. Pour qu'ils le soient, il faut que le culte ait été institué par le gardien de la terre. Ce qu'il fait au fur et à mesure, ou l'a fait, au fur et à mesure de l'arrivée des différents lignages d'origine diverse, venus s'installer au temps de la fondation du village, venus s'installer dans ce qui n'était encore qu'un espace de brousse. Pour chacun de ces groupes lignagés, il a posé une peau de la terre, c'est-à-dire qu'il a institué un lieu de culte afin de leur donner une place pour s'asseoir. Pour l'essentiel, cette institution, cette installation d'une peau de la terre, c'est un acte sacrificiel qui est suivie d'une délégation de son autorité rituelle au doyen du groupe en question. La charge d'un sanctuaire étant une charge en fait délicate, qui peut être dangereuse, elle est confiée le plus souvent par le doyen à un fils de sœur ou à un lignage étranger qui aura été adopté par le dit lignage. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu. Mais là, c'est le calcul lignager. Alors, le très remarquable de ces lieux de culte consiste dans le fait qu'ils ne sont pas du tout, comme on pourrait croire dans d'autres civilisations, des lieux défrichés, mais ils sont laissés dans leur intégrité naturelle. Ce sont des lieux retirés de tout usage commun. On ne peut pas y cultiver, on ne peut pas y prélever quoi que ce soit pour une utilisation ordinaire. Ils sont littéralement exceptés du territoire par une barrière d'interdit. Ils sont placés sous la sanction de la divinité topique qui y a manifesté sa présence. Bref, ce sont des espaces littéralement sanctuarisés au sens propre du mot sanctus, avec la notion de limite, d'obstacle qui l'emporte. À l'intérieur de ces espaces, et ce que montrent les images centrales, on trouvera parfois des pierres entassées qui marquent l'emplacement de l'autel, mais le plus souvent, c'est le pied d'un arbre ou un rocher remarquable qui va tenir lieu d'autel. Il en va autrement pour les lieux de sacrifice secondaires, qui sont considérés comme des clones du sanctuaire et qui, eux, sont construits à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons. Et vous en avez deux exemples. Là, un autel utilisé par un devin et l'autre, c'est un autel d'une peau de la terre qui vient de très loin, de pays Talensi qui se trouve au Ghana. Alors, je disais que c'est les deux subdivisions de l'espace, section territoriale ou peau de la terre, ont, c'est ça qui est intéressant, des limites totalement différentes. Alors là, vous avez la représentation, donc, bon, schématique, en grand, en jaune plus clair, d'une terre de maître de la terre et des différentes sections territoriales que j'ai reproduites ici. Les peaux de la terre sont, voilà la première, c'est une peau de la terre recoupe complètement, il y a trois peaux de la terre, enfin c'est le sanctuaire de cette peau de la terre qui porte un nom éponyme, qui a donné son nom village, c'est la peau de la terre de Kaya, on la retrouvera plus tard, c'est pour ça que je vous en parle, et on verra, c'est son hôtel secondaire, et en fait, vous voyez que c'est une autre peau de la terre du village, elle s'étend sur plusieurs sections territoriales du village, avec son hôtel, et ainsi du reste pour les autres, j'ai mis les principales peaux de la terre, il y en a plus, mais là c'est les principales peaux de la terre du village associées au lignage. Donc les limites ne se recoupent pas, c'est-à-dire que ce partage opéré par le gardien de la terre relève d'un autre principe que la subdivision en quartiers, qui est avant tout une affaire d'alliance lignagère. On pourra y revenir si ce n'est pas clair. Alors, fin de cette présentation, j'en viens au sacrifice comme catégorie. C'est ce qui nous intéresse. Le sacrifice, ce n'est pas à proprement parler un concept, ce n'est pas une notion. C'est une abstraction. C'est à la fois un rite, une croyance et une représentation. Toute recherche comparative sur cette abstraction demande donc, et c'est, si j'ai bien compris précisément la démarche qui a été adoptée ici par Vinciane Pirenne, ça demande donc d'envisager le sacrifice comme une institution, c'est-à-dire ses effets réels sur l'organisation politico-sociale d'une part, et de l'autre sur le plan du mythe. Les études comparatives sur le sacrifice en Afrique ont dégagé 5 interprétants majeurs pour conduire l'exercice. La mise à mort de l'animal, l'oralité, c'est-à-dire tout ce qui engage la bouche de l'orang, la bouche de l'animal, la bouche de la puissance, l'avoir et la perte, la relation entre le corps animal, le corps humain et le corps social, et enfin la différence des sexes. Chacun de ces interprétants conduit à formuler des propositions qui distinguent l'acte sacrificiel d'autres pratiques rituelles ou d'autres pratiques ordinaires qui impliquent l'abattage d'animaux. Ces propositions forment comme un trajet, décrivent des moments différents de ce trajet qui dessinent les contours de ce que pourrait être l'objet du sacrifice dans l'ère des populations voltaïques. Alors, je n'aurai pas le temps ici de toutes les évoquer en détail, je ne le ferai que brièvement pour trois d'entre eux, parce qu'on va les retrouver dans la troisième partie, et on pourra éventuellement y revenir dans la discussion. Mais tout d'abord, petite précision de vocabulaire sur les places et les rôles dans le dispositif sacrificiel, parce que je crois qu'il faut éviter tout malentendu, car les réalités auxquelles ces termes renvoient ne sont pas nécessairement les mêmes dans toutes les civilisations. Donc, j'appelle, pour ça je vais donner... Voilà, c'est un sacrifice classique. Là, l'autel d'ancêtre qui est devant et un objet tambour qui est un objet prénatal pour le personnage qui est là et c'est son père qui sacrifie. Donc, j'appelle officiant ou sacrificateur ce personnage-là. C'est la personne qui conduit le rituel de part en part. Il détient en principe la charge du culte, charge qui se transmet de père en fils ou de frère aîné en frère cadet selon le type de culte. Il arrive parfois que l'héritier soit seulement un enfant. L'office sera alors tenu par deux personnes. L'enfant, qui sera en place de sacrificateur, c'est lui qui tient le couteau, c'est lui qui égorge, et un aîné, issu du groupe des alliés cathartiques de son lignage, qui va faire fonction d'orant, qui va énoncer les invocations. Alors, j'appelle sacrifiant ce personnage-là, la personne ou le groupe de personnes au bénéfice duquel le sacrifice est accompli, mais il faut toujours garder à l'esprit que même lorsque le sacrifice est accompli pour une seule personne, il y a toujours d'autres bénéficiaires qui seront énoncés dans les paroles de l'invocation, les petits frères du sacrifiant, les enfants, la maisonnée, etc. J'appelle instance allocutaire les différentes catégories d'entités qui architecture l'invisible en Afrique, dans cette région, dès lors qu'elle se retrouve prise dans un dispositif sacrificiel. Alors, comme ailleurs, il existe une très grande variété de ces entités susceptibles d'entrer dans le dispositif, l'instance terre, les peaux de la terre, les ancêtres, plusieurs catégories d'objets doux et de pouvoir, des puissances médicinales, enfin, etc., des instances de la personne, des petits êtres de la brousse, etc. Il n'existe aucun corpus mythologique qui les embrasserait tous. Et la notion de panthéon, si importante dans l'ère helléniste, qui implique donc aussi des formes de hiérarchie, est ici en l'espèce totalement inopérante. Faute de termes vraiment adéquats, je recours quand même au terme de autel, l'endroit précis devant lequel se tient l'officiant. Donc ici, en l'occurrence, ceci. Et ceci, c'est deux autels différents. Cet endroit précis polarise à la fois son corps, ses gestes et ses paroles. Cette place peut être, selon les cas, là on le voit, marquée par une construction spécifique formée par un élément architectural de la maison, comme ici, vous voyez, ou bien une construction. Là, c'est une construction un peu particulière, c'est le tas des cendres ménagères, mais qui existe devant chaque maison, mais qui, chez le chef, est un hôtel. Là, c'est une énorme construction d'hôtel d'ancêtres. Bon, vous avez d'autres types de constructions, celle-là, et celle-là, qui sont des constructions différentes. Alors, il y a aussi donc les constructions, mais aussi donc ces objets mobiles, comme le tambour que nous avons vu tout à l'heure, ou d'autres types d'objets dits puissants, qui, en tant qu'il manifeste une manière de se montrer de la puissance, occupe cette place d'autel dans le dispositif sacrificiel. Mais il existe aussi des cas, mais c'est le cas du gardien de la terre, où rien, tout point du sol, est susceptible d'être le point focal de l'ère sacrificielle. Alors, ce point focal, les Kassem l'appellent Djem, mais ça désigne tout à la fois l'autel, la puissance destinataire du sacrifice, mais aussi, dans le cadre des sens de divination, l'offrande. Eh bien, c'est évidemment la raison majeure qui m'incite à penser que ce terme d'autel est impropre, mais c'est un autre sujet et je n'ai pas d'autre terme. Il n'y a pas de terme spécifique pour désigner le sacrifiant, et quant à l'officiant, lui, il est appelé le voué à la tête, et on verra dans un instant pourquoi. Parce qu'on pourrait dire c'est parce que c'est lui qui est devant, mais non, en fait, il est voué à la tête parce que c'est à lui que revient la tête de tout animal sacrifié, ainsi que la peau d'ailleurs. Alors, plusieurs euphémismes et métaphores sont utilisés pour désigner le rite sacrificiel, verser l'eau, faire le travail, libérer, mais aussi, et c'est important, réparer. Au sens propre, c'est le verbe « kane », bon, peu importe, il n'a pas d'autre emploi hors du cadre sacrificiel. Alors, j'ai dit les interprétants. Je vais en évoquer trois. La mise à mort, l'oralisation et corps animal, corps social. Parce que c'est ceux qui nous intéressent ici plus particulièrement, encore que les deux autres aussi. Alors, ce n'est pas aux hellénistes que je vais apprendre la sorte de déni de meurtre qui entoure l'acte de mise à mort de l'animal. Jean-Pierre Vernand, Étienne, Jean-Louis Durand ont longuement insisté sur ces gestes qui mettent à une distance entre sacrificateur et victime. Demande de pardon à l'animal, sacrificateur parfois puni comme un criminel, frappé, exilé, etc. En Afrique, c'est beaucoup moins clair. Il existe en certaines cultures sacrificielles, au Mali, si mes souvenirs sont bons, des prières pour demander pardon au couteau, mais il n'y a rien de tel chez les Kassena. Par contre, entre le meurtre, la chasse et le sacrifice, il y a bien comme une série de renvois ou d'échos qui interpellent. Certains gros gibiers sont traités dans l'après-coup de leur mort à la chasse comme des victimes sacrificielles, tant par le traitement du corps, la présentation devant l'autel d'ancêtre, un dépôt d'une partie du foie de l'animal, que dans le partage de la viande entre les parents du chasseur, le chasseur recevant la même part que celle de l'officiant d'un rite sacrificiel, c'est-à-dire la tête et la peau du gibier abattu. Pour autant, des rites accomplis avant et après un retour de chasse impliquent une médecine de meurtre qui est utilisée dans les rites de traitement de l'homicide. Par ailleurs, le transfert du gibier abattu en brousse vers le village reprend certains des codes du transport d'un homme mort en brousse. Cette prise en charge par la collectivité du traitement du corps de l'animal donne à penser qu'il y a une sorte de tête-à-tête impossible entre le chasseur et la dépouille du gibier qu'il a fléché à mort. Assimilée à un meurtre, voire à un homicide, la mort du gibier à la chasse est comme rattrapée, réparée par un simulacre sacrificiel. D'autres situations, notamment celle du traitement sacrificiel de l'homicide, inclinent à dire que le meurtre est pensé comme une sorte de sacrifice manqué. J'y reviendrai. Mais retenez ici que quand il survient, il s'agit de réencoder, à l'aide de la grammaire sacrificielle, l'acte afin de se préserver des effets néfastes de tel événement. Et de manière générale, tout décès semble venir fragiliser la fiction sacrificielle. Lorsqu'une mort survient dans une maisonnée, toute activité sacrificielle est ipso facto suspendue, de même d'ailleurs que toute cuisine. Cette forme de paralysie rituelle des endeuillés prend fin avec l'enterrement du corps. Mais il faudra le très long temps des funérailles scandées par d'innombrables rites pour qu'un défunt soit substitué à une puissance parentale à laquelle un culte sacrificiel pourra être rendu. J'y reviendrai sur cette question du meurtre, parce qu'en fait, elle dessine en creux les enjeux du service sacrificiel rendu au pot de la terre dans les sanctuaires. L'affaire engage bien au-delà de la seule personne du meurtrier, puisqu'un tel acte a pour effet, s'il n'est pas réparé, de stériliser la portion de terre où l'acte a eu lieu. Il remet en question dans le même temps l'humanisation de la terre et la socialisation des lignées. Le meurtre introduit dans l'espace du village, c'est une espèce d'espace d'indistinction dans lequel est tombé l'homicide par son acte. Dans l'acte sacrificiel, à la différence d'autres formes d'abattage des animaux, il y a toujours un temps d'arrêt, de silence, dans un instant qui suit juste après la mise à mort. Cet instant de vacillation est corrélé à un temps divinatoire. Là, si c'est très connu des africanistes, l'assistance observe les soubresauts de la volaille jetée à terre, car la manière dont elle retombe sur le dos ou sur le ventre est le signe que la puissance destinataire accepte ou refuse le sacrifice. Alors, deuxième interprétant, l'oralisation. Bien sûr, il y a l'adresse de l'officiant à l'instance allocutaire relève au premier rang de l'oralisation. C'est un acte de parole qui est désigné par un verbe spécifique qui distingue ce mode du parler du mode du parler ordinaire, du fait même, disent les Kassena, les locuteurs de la langue, que l'orant ne s'adresse pas à quelqu'un qui est là devant lui. Donc, on ne parle pas à un humain comme on parle à une instance allocutaire. On relèvera les demandes que formule l'officiant ont en fait déjà fait l'objet d'une première oralisation dans le temps de la consultation divinatoire. Cette dernière est si étroitement articulée au sacrifice que l'on peut avancer, après Michel Chartry, qu'il s'agit en réalité de la première, cette phase, ce temps divinatoire est la première phase de tout sacrifice. Ce temps divinatoire est toujours évoqué au moment du sacrifice. C'est bien toi qui as parlé par la bouche des devins, c'est bien toi qui as demandé tel ou tel animal avec telle ou telle caractéristique. Ce rappel est là pour légitimer en fait les actes et les paroles de l'officiant. Donc il y a une toute première oralisation de la demande et c'est le fait du devin qui traduit le langage muet, fait de signes et d'objets. Ici, je vous en donne un aperçu, les images je vous en donne un aperçu, le langage muet de l'instance divinatoire. Les caractéristiques de l'animal sont déterminées lors de la consultation et ces caractéristiques vont servir à l'officiant pour construire sa demande. Du genre, j'en donne un seul exemple, regarde le coq, ses plumes, tu as demandé que ses plumes soient rouges. Fais que cela rougisse pour lui comme pour le coq, que personne ne les dépasse, qu'il soit toujours devant les autres. Mais la bouche de Laurent n'est pas la seule à être mobilisée dans le rite sacrificiel. Il y a aussi la bouche qui ment. La bouche de l'instance sacrificielle, la bouche qui est nourrie, mais aussi, évidemment, la bouche des participants au sacrifice. À la différence d'autres civilisations, les dieux Kassena ne se contentent pas du fumet des victimes sacrifiées en leur faveur. Comme ailleurs, en Afrique, ils sont nourris des mêmes aliments que les humains, à quelques interdits près. Peut-on pour autant dire que les hommes et les dieux partagent le même plat ? En fait, non, parce que les premiers... les hommes ne se partagent entre eux d'une certaine manière que les restes du repas sacrificiel. Ils passent après le nourrissage de la puissance. Eh bien sûr, c'est plus connu, toute la dimension acte social du repas. Et ici, dans le cas présent, c'est très important parce qu'il y a une dimension indéniable d'assimilation, identification des commensaux entre eux, du fait même qu'ils ingèrent une même nourriture. L'ingestion est une introjection, on est ce qu'on mange. Les membres d'un même lignage se disent une même chose, non pas tant parce qu'ils descendent d'un même ancêtre, et de fait il y a beaucoup de pièces rapportées dans un lignage, mais parce qu'ils sont tous, peu après leur naissance, été soumis à un rite qui s'appelle « ils sont entrés dans Bunyua », la soupe de l'enfant, qui est une puissance médicinale de procréation, et qui se présente comme une sorte de décoction d'herbes et de racines, dont la composition est propre à chaque lignage, et que l'on fait ingérer à l'enfant. Donc tout membre d'un même lignage a ingéré cette décoction, et c'est de l'aveu, de dire même des gens, c'est pour ça que l'on peut dire que nous sommes une seule chose. Alors, troisième interprétant, corps animal, corps social, corps humain, il existe, ça aussi, c'est très connu des africanistes, il existe une véritable socio-anatomie dans le partage de la victime sacrificielle. Le corps de l'animal apparaît comme le miroir du corps social. L'affaire est très connue, tant l'école fonctionnaliste a insisté sur cette idée que l'on pouvait lire les articulations du corps social sur le corps animal. Il s'agit toutefois, selon moi, d'autre chose que d'un simple reflet d'une organisation sociale qui serait là constituée par ailleurs. La répartition des parts est ultra codée, ça forme une véritable grammaire. Cette grammaire permet d'intégrer le calcul lignager, c'est-à-dire la succession des générations et donc le changement des hommes au poste de doyen et d'aîné, mais aussi le caractère mouvant des relations entre groupes sociaux, parce que comme dans tout groupement humain, il y a des conflits, notamment autour de la chefferie, mais pas seulement, il y a des réconciliations, il y a des ruptures, et ça se traduit, la répartition des parts est suffisamment codée que pour traduire au fur et à mesure l'histoire de ces relations. C'est pourquoi je fais pour ma part l'hypothèse que le corps animal n'est pas simplement un miroir, mais qu'il en a aussi la fonction qui est celle-là même, qu'il remplit dans la formation du moi chez l'individu, selon les découvertes d'Henri Wallon, et dont Lacan fera d'ailleurs son miel, car comme pour le petit homme, qui pour la première fois fait la rencontre de son image dans le miroir, le corps animal donne au corps social la possibilité d'anticiper son unité et de jouir de cette anticipation renouvelée à chaque actualisation d'un rite sacrificiel. Je reviens maintenant à la troisième partie plus spécifique donc, du thème du séminaire, le sacrifice comme institution et le sacrifice sur le plan du mythe. Sur le plan du mythe cosmogonique, le sacrifice en pays Kasséna précède la mise en place du monde et du genre humain. Sur le plan historique, il précède la mise en place du territoire villageois et de l'ordre rituel qui régit les relations sociopolitiques. À l'articulation de ces deux plans, la cosmogonie et l'organisation sociopolitique d'une communauté villageoise, les sanctuaires peaux de la terre occupent une place princeps. Le mythe, ou plutôt il s'agit d'un fragment de mythe, est comme tout mythe constituant. Le sacrifice qu'il relate est singulier puisqu'il se déroule sans victime sacrificielle. Ce fragment de mythe donne au gardien de la terre le statut de son ancêtre de première créature d'origine céleste. Il n'a ni père ni mère, aucune femme ne l'a engendré. Par un sacrifice primordial, donc sans victime, sur une sorte de matière germinale céleste, il a permis le surgissement de tout ce qui est. Et au premier rang, le surgissement des êtres humains, des animaux et des plantes domestiquées. Je vous cite très rapidement un passage de ce mythe, tel que je l'ai recueilli de la bouche d'un gardien de la terre en 83. Soleil Dieu a ouvert la calebasse. Alors, pour cosmique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une calebasse, voilà une calebasse. L'homme en question fait le travail de Dieu, comme il dit. Donc, Soleil Dieu a ouvert la calebasse du monde en deux moitiés. Il a fait descendre le gardien de la terre, ou son ancêtre, coiffé d'une demi-calebasse pour donner l'eau à boire à la terre, c'est-à-dire pour sacrifier. En ce temps-là, la surface de la terre était encore molle. Le vent a soufflé et séché le dessus de la terre. Soleil Dieu a mis la pulpe de la calebasse dans ce que vous voyez à l'intérieur, là où sont disposées les graines de la plante calebasse. Il a mis la pulpe de la calebasse dans la main de la créature pour qu'il sacrifie dessus. C'est Soleil Dieu qui a ouvert la calebasse et fermé la demi-calebasse sur la tête du gardien de la terre. Après, il a attrapé l'autre moitié, il est parti. La pulpe de la calebasse, c'est ça qui est devenu des personnes. C'est notre semence, notre origine comme ça. La pulpe de la calebasse est devenue des personnes. Puis la pulpe s'est transformée, c'est devenu du mil, du riz, du gros mil, toutes les choses. La femme qui a pris le ventre et qui accouche. C'est à cause de ça que les hommes existent, que les personnes se suivent. Donc, ce fragment nous renvoie évidemment à une théorie endogène du sacrifice. Les peaux de la terre que Dieu a projeté sur terre, après cette séparation du ciel et de la terre, sont des divinités, certes, topiques, mais en fait mobiles, dans un mouvement aussi bien vertical, entre ciel et terre, qu'horizontal, à la surface du sol. Elles vont et viennent entre ciel et terre sous l'impulsion des sacrifices que font les humains dans les sanctuaires boisés. Ces divinités mobiles ont en charge d'aller prélever dans la maison de Dieu-Soleil, de Soleil-Dieu, une poignée de pulpe, une poignée de semences, pour la ramener sur terre, qu'elle se transforme sous l'effet du sacrifice en nouvelle personne, en femme qui accouche, en mille, animaux, etc. Au passage, je souligne qu'une telle théorie endogène donne une origine commune, ici aussi, en Afrique, entre les humains et les non-humains, et y compris les plantes. De ce statut mythique de son ancêtre, le gardien de la terre tire sa principale fonction, qui est celle de faire habiter. Ce qu'il fait quand, selon ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les récits d'un village et fondation d'un village, il a donné aux nouveaux arrivants une peau de la terre pour s'asseoir. Ce sanctuaire attribué devient ipso facto une sorte d'ombilique pour le lignage en question, lui permettant par des sacrifices d'atteindre cette réserve céleste de matière germinale. Il s'agit là bien plus et de bien autre chose qu'un simple ancrage territorial. C'est un nouvel Origo, une nouvelle origine qui cristallise ce moment où une lignée rencontre un territoire. Le sanctuaire donné devient le lieu de dépôt de tous les souffles, de toutes les vies des membres du lignage en question. Il est le lieu où ce lignage respire, disent les Kasséna. Tout nouveau-né, quand il quitte la maison de Soleil Dieu, passe d'abord par ce sanctuaire propre au lignage, avant d'advenir dans le ventre des femmes. C'est ce qui permet de dire que cette peau de la terre est en fait l'ancêtre des membres du lignage. Ils ont tous les membres du lignage sont les enfants de cette peau de la terre. Donc, dans le mouvement même où un morceau d'espace, de brousse, se trouve de la sorte généalogisé, humanisé, la lignée, elle, est territorialisée et de ce fait même, on va le voir, socialisée. Je dis espace de brousse. Le sacrifice du gardien de la terre n'est pas un acte de propriété, mais un acte d'appropriation au sens de rendre une chose, un espace, propre à un usage, à une destination. De la même façon que le sacrifice de la créature mythique a transformé la pulpe du fruit de calebassier cosmique en un monde propre à l'existence humaine, celui du gardien de la terre, quand il pose une peau de la terre, transforme l'espace de brousse en un espace propre à une vie authentique d'être de village, c'est-à-dire une vie stabilisée, une vie généalogisée et réglée par les interdits et les rites. Il y a trois niveaux d'organisation de sacrifice au sanctuaire. L'organisation, d'abord ce premier niveau que je viens de longuement décrire, donc où chaque groupe lignagé sacrifie collectivement ou individuellement à sa peau de la terre de souffle, à son tangoam de souffle. Un second niveau, donc ce serait comme ces deux... Excusez-moi. Donc celui-là est un tangoam, est un sanctuaire de souffle pour un lignage B qui habite ce quartier, et celui-là est un tangoam de souffle de l'autre lignage. Donc ces deux lignages sont des alliés cathartiques, et l'un et l'autre de ces tangoams de souffle peut servir à certains moments d'hôtel de l'extérieur où les deux lignées se réunissent pour sacrifier ensemble. Il y a enfin un troisième niveau. Et c'est celui du sanctuaire qui est éponyme du village, son nom, tout village en pays Kasséna est le nom d'une peau de la terre, qui a donné son nom au village. C'est la première peau de la terre, censée être la première peau de la terre, le premier sanctuaire établi par le gardien de la terre. Et cette peau de la terre éponyme, elle, c'est, comme vous voyez son air, la terre qui lui est associée de loin n'est pas la plus grande, hein, elle est même parfois la plus petite dans certains cas, mais néanmoins tout sacrifice fait à cette peau de la terre là de Kaya aura pour sacrifiant l'ensemble des habitants du village, même s'ils ne sont pas présents au moment du sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs aires rituelles d'un même sanctuaire, hein. Soit limité à la portion de terre, soit plus vaste à la section territoriale, soit à l'ensemble du village. Ça inclut même, comme Tangoam de Souffle, ça inclut même dans son aire sacrificielle, dans son aire rituelle, les gens du lignage qui sont partis à l'étranger. Donc ça suit la personne. Donc, telle organisation, pourquoi j'y insiste, c'est qu'elle a pour effet d'enserrer dans une même grande toile sacrificielle l'ensemble des habitants d'un même territoire et d'en faire une même communauté sacrifiante, tout en conservant au sein de celle-ci une logique segmentaire. Bien sûr, les demandes et les dettes sacrificielles ne sont pas de même nature selon le niveau impliqué. En fait, au niveau d'un seul lignage et de son tangoam de souffle, les demandes sont pour l'essentiel le fait d'individus et sont liés à des affaires de procréation et de demande de nouvelles naissances dans le lignage. Quand le sacrifice engage deux lignages alliés en alliance cathartique, à l'un ou l'autre de leur sanctuaire de souffle respectif, les affaires qui les rassemblent concernent les menaces d'ordre divers qui pèsent sur la cohésion tant territoriale que politique ou sociale où ils résident. Et c'est lorsque la cohésion politico-sociale de l'ensemble de la communauté que l'instance allocataire des sacrifices sera, vous l'aurez deviné, je crois que je l'ai déjà dit, la divinité topique éponyme. Par ailleurs, alors ça, tout un chacun, dès lors que sa maison est édifiée sur la portion de terre associée à un sanctuaire voisin déterminé, et dès lors qu'il y a fait souche, donc, c'est-à-dire qu'il a eu des descendants, il contracte une dette sacrificielle vis-à-vis de la puissance, et s'il veut partir, ben ça arrive, il peut vouloir déménager dans un autre village, il aura à faire des sacrifices à cette puissance qui lui a permis d'y avoir une descendance. C'est ainsi que tout enfant, dès sa naissance, s'inscrit dans un réseau dense de liens sacrificiels avec différentes divinités topiques, aussi sûrement qu'il est inscrit dans la généalogie de son groupe. Cette toile sacrificielle, créée et recréée à chaque moment critique de la vie d'une communauté, engendre entre les sacrifiants un lien de parenté rituel. C'est ainsi que tous les groupes lignagés qui composent la communauté villageoise, bien que affirmant qu'ils viennent d'origines diverses, ce n'est pas nié, mais ils disent qu'ils sont devenus une seule chose. Ils sont devenus une seule semence, une seule origine. Cette parenté rituelle entre les sacrifiants a pour conséquence d'interdire de recourir entre eux à un certain type de meurtre initiatique qui ne se pratique qu'entre ennemis rituels dûment identifiés comme tels. Alors, les événements qui exigent une réparation sacrificielle collective aux divinités topiques, il y a un même thème, celui de mangeur, qui désigne toute une série de catastrophes naturelles, épidémies, épizooties, nuages de sauterelles, autrefois lions mangeurs d'âmes, éléphants isolés, mais aussi la présence supputée de sorciers mangeurs d'âmes. Toute sécheresse prolongée impliquera la recherche des causes auprès des devins et impliquera une réparation sacrificielle. Parce que, comme en d'autres sociétés voltaïques, la sécheresse et la stérilité subséquente de la terre est interprétée comme un manquement de l'un des interdits de la terre. La fiction rituelle d'une instance terre, garante du noyau des interdits fondamentaux du groupe, est particulièrement développée chez les Kasséna et leurs voisins immédiats. La terre, en ces sociétés, fait point de recollection d'une série de fonctions. Ou sa fonction d'assise, qu'elle a dans d'autres civilisations, pour les collectifs humains, c'est elle qui assure la gestion de la graine, la digestion des morts et de tout ce qui n'a plus d'attache en ces mondes-ci. Elle fait office de grande poubelle, si vous voulez, cosmique, mais c'est aussi le lieu d'enregistrement des morts et des naissances. Voire, dans certaines populations, c'est le lieu de mémoire des paroles pas prénatales de chacun. Les rites et les interdits, qui sont les deux versants de la même obligation, hein, même terme en Kassem désigne le rite et désigne l'interdit, c'est Kyulu, veille à ce qu'il n'y ait aucune confusion entre ces différentes fonctions de la terre. Ainsi, c'est pourquoi aucune funéraille ne peut prendre place en saison des pluies. On enterrera le mort, bien évidemment, mais on ne fera pas ces funérailles, parce que la saison des pluies est le temps des cultures, et ce n'est pas seulement pour une raison pratique, le fait que la plupart des adultes sont en brousse, mais c'est parce que engager la terre dans une digestion d'un mort, dans le même moment où on sollicite sa fonction gestatrice, c'est prendre le risque d'avoir une récolte corrompue par la pourriture des corps. Alors, ces interdits de la terre forment une liste à première vue hétéroclite d'événements. Il y a un versement sur le sol de toute une catégorie de sang, du meurtre, de la risque, d'une blessure que se fait à lui-même un cultivateur au temps, justement, des récoltes. Le sang aussi de l'accouchement qui serait survenu en chemin ou au champ, mais aussi des relations sexuelles en brousse, même entre mari et femme, donc il ne s'agit pas d'adultère. L'appropriation d'épaves, c'est-à-dire d'animaux ou d'objets dont on ne connaît pas le propriétaire. La découverte d'un corps mort en brousse. Bref, tout ça, c'est des interdits de la terre. Tous ces événements, lorsqu'ils surviennent, exigent une réparation sacrificielle, faute de laquelle la portion de terre où ils seront survenus s'asséchera et se stérilisera. C'est d'ailleurs évidemment dans le sens inverse que ça se produit, c'est parce que la terre se dessèche qu'on va voir chez les devins et qu'on voit qu'il y a eu manquement. Et qu'il faut absolument qu'il y ait une dette sacrificielle qu'il faut honorer. Bon, j'ai montré ailleurs que ces interdits, que leur réparation sacrificielle dévoilait en creux, en fait, la conception endogène de ce que c'est qu'un territoire habitable par une communauté humaine. Et, assurément, la pratique sacrificielle, dans cette réparation, occupe une place princeps. Réparer ce qui a été gâté, c'est le leitmotiv des sacrifices accomplis dans les sanctuaires boisés auprès des puissances peaux de la terre. Si j'ai le temps, encore un peu, deux situations observées sur le terrain donnent quelques éléments concrets supplémentaires qui permettent de saisir au plus près quelles sont les voies empruntées pour créer et recréer du lien social. Un lien social qui, j'espère que vous l'aurez compris, est pensé dans les termes, en ces sociétés, est pensé dans les termes d'un lien de parenté rituelle par la terre. Alors, je ne vais pas les décrire, ces deux affaires, parce que ça nous prendrait plusieurs séminaires. L'un, c'est un sacrifice collectif sur l'autel, le sanctuaire de Kaya, dans une affaire de sorcellerie, auquel j'ai assisté en 83. Les bénéficiaires, c'était tout le village. Et l'autre, c'est un sacrifice collectif sur un autre de ces sanctuaires du même, la même section territoriale, à Dambulla, qui se trouve là. Qui, elle, était un rituel de réconciliation, en fait, entre des lignages alliés, en tout cas des segments de deux lignages alliés, qui ne se parlaient plus depuis plus de 50 ans, enfin, qui ne faisaient plus de rites entre eux depuis 50 ans, et que, réconciliation qui s'est faite par le truchement du désensablement d'une mare qui se trouvait dans le bosquet dit Andambula et qui, depuis, était asséchée. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui m'a frappé dans ces deux affaires, dans la première, c'est la place prépondérante qui a pris la parole. L'acte d'oralisation a pris plusieurs heures. Dans le deuxième sacrifice collectif, le trait dominant, ça a été le travail réel, épuisant, effectué par la quasi-totalité des hommes et des femmes des lignages impliqués. Comme j'ai dit, il s'agissait de désensabler la mare asséchée. Je crois que c'est ça. Voilà. Et là, on ne voit qu'une petite partie des gens qui travaillent, parce que là, ils sont déjà rentrés très profond dans le marigot, mais il y a énormément de gens tout autour. Et il y a donc... ce dessèchement avait été interprété par les devins comme étant avoir pour cause la querelle profonde qui, depuis plus d'un demi-siècle, donc opposait les deux segments majeurs des lignages alliés. L'essentiel du temps rituel, dans ce second rite, passé dans le sanctuaire, a été consacré non pas tant à l'acte sacrificiel en soi qui a été réduit à sa plus simple expression, il n'y a même pas eu de victime là, il y a eu juste une offrande de tabac et de cola, donc de noix de cola, c'est un fruit particulier africain, mais c'était ce travail. Donc dans un cas, c'était l'acte d'oralisation qui a pris plusieurs heures, avec là par contre deux sacrifices, des sacrifices conséquents, des temps en temps, et l'autre c'était ce travail en commun. Alors parler et travailler ensemble, ce sont bien sûr deux façons universelles de créer et recréer du lien social. Alors s'il me reste un poil de temps, si je m'en sors là, quelques précisions sur le caractère cathartique des prises de parole dans la première affaire. Tout rituel collectif, tête des funérailles, comporte plusieurs moments qui sont réservés à la circulation de la parole entre les aînés, des différents segments des deux lignages alliés en présence. Cette parole, généralement, annonce la séquence rituelle qui va suivre. Hein, on va faire ceci, on va faire cela, on va asseoir, on va sortir ceci, cela, bon. Et qui est transmise à travers les aînés, parmi les aînés sur le mode d'un question-réponse. Un tel t'a entendu, oui, j'ai entendu, et voilà, c'est sans plus. Mais lors de ce sacrifice à la divinité topique, il y a eu comme une dilatation démesurée de ce temps réservé à la circulation de la parole. C'est qu'il ne s'agissait plus d'annoncer une séquence rituelle dont les moindres détails sont connus et fixés par l'ordre du rite. Il s'agissait de résoudre une affaire très complexe, toujours en cours, qui impliquait de nombreux, je vous ai dit, c'est une affaire de sorcellerie, elle était toujours en cours. Il y avait des gens, des enfants posés, malades, qu'il fallait, donc, dont on pensait qu'ils étaient pris par des sorciers, et donc il fallait relâcher l'emprise sur ces enfants. Elle impliquait de nombreux protagonistes. Cette affaire était en passe de déchirer le tissu social, voire de fragiliser encore un peu plus le pouvoir d'un chef, qui est en l'occurrence un usurpateur. Dans la mesure où les démarches qu'il avait tentées, rituels qu'il avait tenté de faire auparavant, avaient toutes échoué. D'ailleurs, au grand, sans étonner les gens, puisqu'il disait que c'est normal, puisque ces régalias ne valent rien. Il les a achetés au marché. Dans le temps du sacrifice, proprement dit, chacun est intervenu très longuement, reprenant l'histoire dans les détails. Et dans le temps du sacrifice proprement dit, Laurent, là en l'occurrence, parce que le sacrificateur était un enfant, Laurent va construire son adresse aux instances allocutaires à partir, en prélevant les éléments avancés par les différentes plaidoiries. La forme de ces invocations, le choix des mots, les formules signaleront qu'on n'est plus dans un échange de paroles entre humains, mais bien dans une adresse à des destinataires non présents sur la scène sacrificielle, dont l'effet recherché n'est pas seulement de faire sens fonction illocutoire, mais d'avoir un effet réel, fonction perlocutoire. Je n'ai pas la place ici d'une analyse approfondie du verbatim de ces paroles, mais je retiendrai ceci, ce constant souci de retracer exactement l'histoire, de donner le nom de tous les protagonistes. On est dans des sociétés où la parole, où les mots ont conservé intégralement leur pouvoir symbolique. Nommer, c'est encore faire exister la chose nommée. Ne pas nommer, c'est prendre le risque de justement ne pas la faire exister. Nous, comme on est baigné dans les novlangues, là, depuis quelques années, évidemment, avec les inversions de langues, les deux sens, les vérités alternatives, on perd peu à peu cette fonction essentielle du langage qui est de nous rattacher au réel du monde. Ensuite, le trait sans doute le plus inattendu pour une oreille occidentale, ce sont les accusations et les menaces explicites qui sont proférées à l'encontre de la divinité topique. Donc on la menace, on l'accuse d'être du côté des sorciers et pas du côté des gens, c'est elle qui mange les gens et c'est pas les sorciers, et on la menace que si ça continue, si elle ne fait rien, si après le sacrifice elle n'a rien fait, eh bien tout le monde va s'en aller, on va s'éparpiller, le village sera perdu, tout le monde viendra se moquer des maisons abandonnées du village, et c'est de Kaya, donc de la puissance, que en fait les gens se moqueront, ça sera de sa faute. Et ça, c'est récurrent dans les sacrifices. D'abord, on met en doute son existence. On ne met pas en doute, mais on demande si tu es vraiment là. Si tu es vraiment là, fais quelque chose. Si tu ne fais rien, c'est que tu n'es pas là. Est-ce que donc on va s'en aller? Et ce qui est récurrent, c'est la menace. On va se disperser et on arrête tout sacrifice. Ça ne sert à rien, on s'en va. Puis, bon, il y a le trait de la transmission, bien sûr, mais ça, c'est très connu. C'est une procédure de légitimation. Je parle au nom de quoi? Je parle au nom de mon père. C'est parce que mon père ici parlait que moi, je parle. Voilà, ça, c'est très connu. Et puis, alors, là, ce qui nous intéresse plus, c'est l'importance de faire masse dans le sanctuaire. La visée explicite, c'est de rétablir la communauté humaine dans toutes ses composantes et de la placer sous la protection de la divinité topique. Ça, c'est dit et redit. On est venu en masse. Regarde tous ces enfants qui sont là, en cercle, assis sur toi. Même ceux qui sont à la maison, prends-les. Même ceux qui sont partis, prends-les avec toi, etc. Donc, bon, il est évident que... très aussi, c'est que la dimension cathartique de cette inflation de la parole, de cette oralisation intense, n'échappe pas aux orateurs eux-mêmes, parce qu'ils disent à plusieurs reprises, il faut que chacun parle, il faut que chacun parle, il faut que chacun est appelé à dire le fond de sa pensée sur l'affaire. Et je dirais qu'elle opère pourquoi cette catharsis. Elle opère parce que l'instance allocutaire, l'instance qui est destinataire de ces paroles et de ces sacrifices, c'est dans l'oreille de Kaya, disent-ils, qu'ils jettent leurs paroles, occupe en fait une place de tiers qui permet de sortir de la réalité mortifère, de la dualité mortifère des lignages concernés. Et je ne sais pas une interprétation, celui qui va être en fonction d'Oran le dit clairement. Il, en parlant du lignage dont il est l'allié cathartique, sont venus auprès du Tangwam de Kaya, ils sont venus chez celui qui, les ancêtres de celui qui a la charge, ils parlent avec eux. Donc ils parlent avec Kaya, ils parlent avec les ancêtres de celui qui a la charge, ils ne parlent pas avec moi. Si c'était avec moi qu'ils désiraient parler, nous serions tous assis à l'ombre, mais nous sommes tous assis au soleil. Si tu prends la parole des autres et tu dis que tu connais parce que ta voix est bonne pour parler, mais qu'eux, ils n'ont pas parlé, est-ce que ta voix bonne a du sens? Ce n'a pas de sens, ça n'a pas de fond, ça n'a pas de racine. Donc, ainsi que je l'ai déjà dit, c'est à partir de ce flux que Laurent va construire ses adresses aux instances. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le trait récurrent, c'est le prélèvement sur le corps même de l'animal sacrifié de certaines de ses caractéristiques pour tirer des verbes. Ici, c'est « vois la pintade blanche que donne le chef de Kaya, il dit que tu prennes pour que tu blanchisses », et le terme est évidemment même racine, hein. « Vois la pintade blanche, il dit que tu prennes pour que tu blanchisses le dessous, la racine des sorciers », c'est-à-dire tu dévoiles leur existence aux yeux de tous. Bon, je conclue. par la question de la mise à mort dans le sacrifice, par laquelle j'avais commencé. Il y a plusieurs indices qui permettent de penser que dans ce système, une équation symbolique est posée entre le sang humain et le sang de la victime sacrificielle. J'ai évoqué l'existence des interdits qui pèsent sur l'écoulement sur le sol de plusieurs catégories de sang humain. Les rites de réparation qu'exigent ces événements portent tous une dénomination générique qui est « ramasser le sang ». Et dans le cas du sang versé suite à un meurtre, les paroles de l'officiant disent clairement qu'il s'agit de ramasser le sang humain en le remplaçant par le sang des victimes animales. Ici de même, dans le sacrifice collectif au Tanguam de Kaya, par rapport donc à cette affaire de sorcellerie, Laurent, l'officiant, dit à un moment donné « Kaya, prends seulement le sang de cette pintade, ne prends plus le sang des personnes encore, parce que c'est à cause des personnes que nous sommes ici, tous assis. » Alors, il ne faudrait pas se précipiter à n'y voir qu'une affaire de substitution. Sur le plan du mythe, on l'a vu, le sacrifice primordial de la créature céleste a eu pour effet d'engendrer tout ce qui est au monde. Cette théorie endogène du sacrifice, et que vient enrichir des discours sur le rôle des peaux, des discours et actes sur le rôle des peaux de la terre, suggère que tout sacrifice a pour visée d'opérer la maturation des graines contenues dans la pulpe cosmique afin de les transformer en toutes sortes de choses, matérielles comme immatérielles, la santé, la prospérité, la protection, un bon voyage, pas seulement des biens. La notion de transformation est au cœur du récit mythologique. Il n'arrête pas de répéter « et ça s'est transformé, c'est devenu », etc. Cette représentation place donc le sacrifice sous le signe de l'engendrement, de la procréation. Il y a cette phrase que j'avais évoquée tout à l'heure d'un devin Cassena qui disait « nous, les gens du sang », c'est ainsi que les appellent, c'est pas une autodénomination, c'est les protestants qui appellent les devins, les sacrificateurs, les cassénats, les gens du sang, et qu'il faut abandonner ça parce que c'est Satan. Et le devin répète, non, ils nous disent qu'on est les gens du sang, qu'on est Satan, mais on n'est pas les gens du sang, on n'est pas Satan, nous les gens du sang, nous qui sacrifions, ça suit le chemin de la vie, le chemin de la santé. Alors toutes ces choses, santé, protection, succès, etc., destruction des ennemis qui sont demandées, et que le corps même de l'animal sacrifié permet de formuler, serait non pas obtenu sur le mode bien connu du donnant-donnant, on n'est pas dans le donnant-donnant, on est plutôt dans la dette sacrificielle que dans le donnant-donnant, mais là, pratiquement, elle serait, symboliquement, elle serait obtenue non pas sur le mode du donnant-donnant, mais advienne à l'existence par une opération sacrificielle qui emprunterait un chemin analogique à celui de la procréation. Je n'ai pas évoqué, mais tout sacrifice animal, en général ça démarre par un poulet, mais elle est précédée d'une libation. Et le plus souvent, c'est des libations de petit mil, qui est une céréale locale. Ces libations de petit mil laissent sur l'autel des traces d'une blancheur spermatique, auxquelles viennent se mêler les traces rouges du sang de la victime animale, soit ces deux substances, blanches et rouges, qui interviennent dans toute procréation selon les théories endogènes. L'ajout des plumes, l'ajout des bouchées de chair de l'animal, qui est présenté comme un nourrissage de la puissance, voit l'eau, prend et donne aux autres, relèverait de ce registre dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'introjection-identification. Tout se passe comme s'il s'agissait de donner corps à la demande faite, à l'instance allocutaire, afin que la chose, c'est-à-dire le souhait, prenne corps dans ce monde-ci, suivant un processus qui renvoie métaphoriquement au processus d'engendrement. L'obsession rituelle qui enjoint de ramasser le sang humain qui a coulé sur le sol et de le remplacer par le sang d'une victime animale semble ainsi trahir la crainte d'une volonté d'auto-engendrement qui viendrait mettre à mal la grande fiction sacrificielle. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.